bonsoir à tous. Écoutez, pour commencer, pour vous présenter un peu la démarche de l'Institut de l'entreprise, comment cette étude a été menée, il me semble qu'il faut revenir un peu à l'origine, et surtout à l'essor des réseaux sociaux d'entreprise, qu'on appelle souvent RSE, à ne pas confondre avec la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Donc souvent, il y a cette confusion qui existe. On parle souvent de RSE, on parle parfois aussi de RSI, de réseaux sociaux internes, donc c'est la même chose. Pour revenir un peu sur l'histoire de ces RSE, en fait, il faut se souvenir de la question qui intéresse tous les économistes et tous les chefs d'entreprise, c'est comment est-ce qu'on crée de la richesse. Et pendant longtemps, en fait, la réponse a été donnée par Adam Smith ou par d'autres. La richesse vient de la division du travail. L'idée, c'est d'avoir des salariés qui sont compétents, qui ont du talent et qui vont finalement chacun être spécialisés sur une tâche et travailler chacun les uns à côté des autres avec un minimum de coordination pour que ça se passe bien. Et puis au fur et à mesure, en fait, ce modèle de la division du travail a été un peu remis en cause. Notamment, on s'est rendu compte que des dégâts ou des effets négatifs des entreprises en silo du fait des cloisonnements où finalement, parfois, on se rendait compte que l'entreprise faisait deux fois la même chose dans deux services parce qu'il n'y avait pas assez de communication, il n'y avait pas assez de collaboration entre les différents salariés ou entre les différents services dans l'entreprise. Et du coup, c'est de là en fait que viennent un peu les réseaux sociaux, c'est cette idée qu'il faut plus de transversalité, qu'il faut plus de collaboration, plus de coopération d'entreprise. Il y a beaucoup de termes qui sont utilisés, après on pourrait revenir dessus sur leur définition en tant que telle. Donc c'est un peu cette idée de mieux collaborer dans l'entreprise qui est à l'origine des réseaux sociaux d'entreprise. En même temps, quand on parle de réseaux sociaux par rapport à l'entreprise, souvent c'est un mot qui fait un peu peur. Pendant longtemps, quand on parle des réseaux sociaux externes, donc Facebook par exemple, ou des réseaux sociaux professionnels, LinkedIn, Viadeo, etc., ce sont des mots qui font un peu peur aux entreprises, parce qu'on se dit qu'en tant qu'employeur, on n'a pas nécessairement envie que ses salariés passent beaucoup de temps sur Facebook au travail. On se demande si les salariés passent beaucoup de temps sur LinkedIn, ils ne sont pas en train de chercher du travail ailleurs, etc. Longtemps, en fait, les entreprises ont vu les réseaux sociaux externes comme un peu leur ennemi, donc souvent ça a été bloqué pour éviter que les salariés les utilisent. Et finalement, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que même s'il y a toujours cette méfiance qui existe par rapport aux réseaux sociaux externes, finalement les entreprises se sont rendues compte qu'ils ont quand même des atouts, notamment en termes de collaboration. On s'est rendu compte que grâce aux réseaux sociaux, en fait, on s'est rendu compte de la puissance des foules, ce qu'on appelle parfois la puissance de la multitude. On s'est rendu compte aussi parce qu'on appelle parfois la sagesse des foules. Et parfois, quand on est nombreux, les réseaux sociaux externes le montrent, on peut faire des choses extrêmement puissantes et donc cette collaboration peut être intéressante. Et du coup, les entreprises se sont dit, finalement, cette collaboration qu'on retrouve sur les réseaux sociaux externes, est-ce qu'on ne pourrait pas la copier ou essayer de trouver des méthodes en interne pour aussi, nous aussi profiter de la sagesse des foules et en tout cas de la sagesse de la collaboration, de la coopération de nos salariés. Et c'est un peu de là en fait, que viennent les réseaux sociaux d'entreprise, cette idée de mieux collaborer, mieux travailler ensemble, de faire de la collaboration 2.0. Pour donner quelques chiffres, sans vous assommer, après, les réseaux sociaux internes sont assez récents, donc les chiffres évoluent un peu chaque jour. Mais grosso modo, on estime qu'il y a entre 5 et 10% des salariés français aujourd'hui qui ont accès à un réseau social interne dans leur entreprise aujourd'hui. Et c'est essentiellement les grosses entreprises qui ont développé ce type d'outils. Les chiffres montrent que dans les entreprises du CAC 40, les trois quarts soit ont déjà lancé leur RSE, soit sont en phase de lancement de leur réseau social d'entreprise. Donc quasiment toutes les grosses entreprises en France, les plus grandes en tout cas, ont ou sont en passe dans les mois à venir d'avoir leur réseau social d'entreprise. En revanche, comme vous l'imaginez, les PME ou les TPE sont encore très loin derrière. L'intérêt des réseaux sociaux internes, c'est aussi qu'on se rend compte que les cadres sont les premiers utilisateurs des réseaux sociaux professionnels. On sait qu'à peu près 80% des internautes vont sur les réseaux sociaux externes. Et les cadres, en fait, si on regarde les cadres de moins de 30 ans, sont à 75% sur Viadeo ou LinkedIn. Donc on voit que les cadres eux-mêmes sont les premiers utilisateurs. Et donc, a priori, on pourrait penser que leurs coutumes ou leurs habitudes à l'extérieur de l'entreprise pourraient être aussi être implantées en interne et que le développement des RSE ne devrait pas poser problème, en tout cas en particulier auprès des cadres. Quels sont les objectifs ou les promesses, en tout cas, de ces réseaux sociaux? Ils sont nombreux. Comme vous pouvez imaginer, les consultants qui travaillent sur le sujet ou les éditeurs de solutions sont les premiers à vanter monts et merveilles sur ces réseaux sociaux. Les promesses sont extrêmement nombreuses dans différents domaines. En termes de coûts, l'idée, c'est qu'on fasse moins de trajets de déplacement, moins de réunions physiques à travers le monde. Donc, ça fait des baisses de coûts importantes. L'idée, c'est aussi d'avoir une entreprise qui va développer une culture plus collaborative, une culture qui sera plus internationale, parce qu'on sait que grâce aux réseaux sociaux internes, les questions les barrières de temps et de frontières sont en partie abolies. En termes de management, on estime que ces réseaux sociaux internes permettraient d'avoir un management qui serait plus horizontal, peut-être un peu moins hiérarchique, un management plus par projet. Ensuite, en termes de ressources humaines, on estime que, enfin, en tout cas, c'est les promesses qu'on pourrait augmenter le sentiment d'appartenance. Parce que finalement, quel que soit le pays ou la ville dans laquelle on travaille, finalement, tous les salariés d'une grande entreprise travaillent sur le même outil, le réseau social, quel que soit le pays dans le monde. Et donc, ça peut créer un sentiment d'appartenance plus important. Certains vont dire que les plus jeunes, ce qu'on appelle parfois la génération Y, est elle-même demandeuse ou désireuse de ce type d'outils qui donnent une image de modernité d'entreprise, etc. Donc, on pourrait développer longtemps toutes ces promesses des réseaux sociaux. En fait, si on regarde, j'essaie de faire une typologie. qui montre qu'en fait, il y a 7 grandes raisons qui sont mises en place par les entreprises pour développer leur réseau social, avec peut-être une 8e raison qui serait inavouée, qui serait de suivre un peu l'effet de mode, mais ça, peu le disent en tant que tel. Première raison, ce serait l'exemplarité. Là, on voit dans les entreprises qui sont high-tech, on se dit, finalement, il faut que nos salariés eux-mêmes soient un peu des vecteurs, soient des promoteurs des outils qu'on vend ou sur lesquels on est censé travailler. Donc l'exemplarité ou le fait d'être dans les domaines high-tech est une première raison. Deuxième raison, c'est les entreprises qui sont extrêmement internationales, qui se rendent compte que finalement, pour travailler aujourd'hui à travers le monde, c'est parfois compliqué quand on se voit des mails avec des pièces jointes, on ne sait plus quelle est la pièce jointe qui est à jour, si deux personnes sont en train de travailler sur la même pièce jointe en même temps, etc. Et du coup, d'avoir un outil commun serait plus simple. Troisième raison, c'est l'idée d'être plus innovant, avec l'idée d'être plus proche du terrain, en disant finalement, si on a un outil qui permet des remontées plus simples et plus rapides entre différents services, en particulier entre le service commercial et le service marketing, ça permettra de mieux innover. Ou on peut imaginer que si un pays lance un nouveau produit au Brésil, peut-être qu'en Chine, on va se rendre compte que le produit pourrait être intéressant aussi, et donc on aurait des innovations qui seraient plus rapides. Ensuite, on va avoir les entreprises qui vont plutôt développer leur marque employeur, en jouant plus sur l'image, à la fois en interne auprès de leurs salariés pour montrer qu'ils sont une entreprise moderne, et en externe pour accueillir ou pour attirer de nouveaux salariés. D'autres vont jouer sur l'accompagnement du changement, en pensant finalement que cet outil, les RSE, permettrait de transformer l'entreprise pour devenir une entreprise 2.0, qui est un peu le terme aujourd'hui à la mode. Et donc l'idée, c'est que l'outil permettrait de plus de collaborer, donc devenir une entreprise plus horizontale que verticale. D'autres vont jouer plutôt sur la question du lien social, en disant finalement, le RSE, ça permet à la fois de communiquer en termes de business en tant que tel, mais ça peut aussi permettre de créer des communautés plus extra-professionnelles. On peut imaginer qu'une entreprise va permettre à ses salariés de créer des communautés de loisirs. Par exemple, une entreprise pourrait très bien créer une communauté sur les amateurs de pétanque. Et du coup, les amateurs de pétanque se rencontreraient, pourraient discuter grâce à ce réseau social et éventuellement connaître des nouvelles personnes. Et on pourrait se rendre compte que d'autres collègues qui aiment jouer à la pétanque, finalement, on pourrait aussi créer des synergies avec leur service, créer plus de collaboration avec eux alors qu'on ne les connaissait pas auparavant. Puis dernier point, c'est aussi d'entreprises qui vont chercher à intégrer les outils en se disant finalement on a des outils collaboratifs dans tous les sens de l'entreprise et ce serait bien d'avoir un outil qui englobe un peu l'ensemble des outils qu'on utilise aujourd'hui pour avoir finalement le même outil partout dans le monde pour simplifier un peu les utilisations à droite et à gauche. Bien sûr, qui dit nouvel outil dit aussi les détracteurs et donc certains vont au contraire pointer les risques des réseaux sociaux internes. C'est vrai que parfois on définit les réseaux sociaux internes un peu comme une sorte de Facebook interne. Ce qui est à la fois un peu vrai et un peu faux, au sens où on retrouve dans les réseaux sociaux internes un grand nombre de points communs avec Facebook, donc l'idée de communauté, l'idée notamment d'avoir un annuaire qui va être enrichi. Donc l'idée, ça va être, parfois, certains dirigeants disent, si je veux savoir quelque chose sur un salarié, si je vais sur LinkedIn ou sur Viadeo, j'en apprends plus sur eux que si je vais sur l'annuaire interne où je vais seulement trouver leur nom de famille, éventuellement leur poste et puis leur bureau. En revanche, j'aurai peu d'informations sur eux. Donc, un des intérêts en fait, des réseaux sociaux internes, ça va être d'encourager les salariés finalement à avoir des présentations d'eux qui vont être plus élargies, plus importantes. Et ça va permettre à l'entreprise de découvrir peut-être des compétences qui étaient jusqu'ici inconnues. Un exemple très simple, ça va être quelqu'un qui est trésorier d'une association. Il aura sûrement des compétences en termes de budgétaire que l'entreprise peut-être ne connaissait pas parce que lui-même ne travaillait pas du tout sur ces sujets-là et n'avait pas un diplôme qui validait, ou en tout cas pas la connaissance de l'entreprise, qui validait des compétences en termes de comptabilité, par exemple. Donc si on en vient au risque des réseaux sociaux, la première question qu'on peut se poser, c'est la question du coût. Est-ce que les réseaux sociaux, en fait, coûtent cher ? Quel est le ROI, donc le retour sur investissement des réseaux sociaux ? Et là, on verra que ce n'est pas évident de pouvoir calculer ce coût. En fait, ça dépend beaucoup de l'utilisation que les salariés vont en faire. Si une vraie utilisation business est importante des salariés, le coût sera extrêmement faible. En revanche, si on crée une usine à gaz et qu'on se rend compte que seulement 2 ou 3% des salariés utilisent réellement les réseaux sociaux internes quotidiennement, là, le coût sera relativement important. Après, les risques sont aussi en termes de productivité. Une des grandes peurs des réseaux sociaux, on va essayer de se demander est-ce que mes salariés ne vont pas passer une grande partie de leur journée à chatter, à créer des blogs internes qui auront un intérêt peut-être plus ou moins important pour l'entreprise ? Est-ce qu'on peut passer beaucoup de temps à lire telle ou telle contribution, à noter les contributions de leurs collègues, etc. ? Est-ce que ça va vraiment permettre de faire progresser la productivité de l'entreprise ? C'est une question qui peut se poser, ça peut faire peur en tout cas, que les salariés passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux internes et moins sur leurs objectifs prioritaires dans l'entreprise. Il y a aussi la peur, notamment pour le management, de déstabilisation d'entreprise, en se demandant si est-ce qu'un réseau social interne, avec plus de collaboration, plus au niveau horizontal, est-ce qu'il n'y a pas le risque que les managers de proximité en particulier se sentent un peu squeezés, au sens où des informations pourraient être échangées entre salariés sans que ça passe par eux. Et donc, est-ce que les managers de proximité ne se font pas se retrouver un peu décontenancés par ce type d'outils ? Et puis, il y a beaucoup de questions aussi en termes de sécurité. Est-ce que les réseaux sociaux ne vont pas développer plus de fuites de documents confidentiels ? Ou est-ce que, en termes de ressources humaines, de santé au travail, est-ce que les réseaux sociaux ne vont pas développer l'infobésité ? On reçoit déjà beaucoup de mails. Est-ce qu'on ne va pas être encore plus plus sollicités par les réseaux sociaux. Si on regarde ces risques pour aller rapidement, on se rend compte que ces risques existent, sont réels. En revanche, en fait, ce sont souvent des risques qu'on rencontre dans la vie réelle, entre guillemets, au sens qu'on n'a pas attendu la question des réseaux sociaux internes pour se poser des questions en termes de confidentialité. Vous pouvez très bien échanger ou envoyer des informations confidentielles par email ou discuter dans un train avec un collègue d'informations confidentielles. Et donc, on voit bien que cette question de la fuite de documents n'est pas propre aux réseaux sociaux d'entreprise. Si on prend la question de la productivité en se demandant si les salariés ne vont pas passer trop de temps sur les réseaux sociaux internes au lieu de faire autre chose, on sait que si on ne veut pas travailler, on peut très bien multiplier les pauses café, faire des pauses de déjeuner à rallonge, etc. Donc, à nouveau, ce n'est pas les réseaux sociaux en tant que tels qui créent ce risque, etc. Au contraire, même le risque d'abus est relativement limité. Et en fait, la crainte qu'il y avait parfois que le réseau social soit un lieu d'abus d'expression, de liberté de langage, où on se rend compte qu'au contraire, le problème, en fait, le risque numéro un, c'est peut-être la sous-utilisation de l'outil. Le problème, c'est peut-être qu'il y ait un manque d'expression des salariés qui peuvent avoir un peu peur de s'exprimer. Parfois, on a des dirigeants qui créent leur blog et qui sont surpris qu'il y ait peu de commentaires, peu de réactions des salariés. En même temps, on peut imaginer qu'un salarié pourra difficilement se permettre de critiquer la stratégie d'entreprise présentée par son PDG ou de tenir des propos relativement négatifs par rapport à l'entreprise, en sachant que l'anonymat est quasiment absent des réseaux sociaux d'entreprise internes, contrairement aux réseaux externes. Donc, il existe un certain nombre de freins qui font que les promesses de ces outils ne sont pas totalement tenues. Pour vous citer un exemple, souvent, les éditeurs de solutions ou les consultants vont dire que grâce au RSE, il va y avoir une meilleure collaboration, il y aura plus de partage d'informations d'entreprise. Et donc, ça devrait faire baisser les budgets de formation, puisque la formation sera plus, en fait, par pair ou de façon informelle ou grâce, en fait, aux informations contenues sur le RSE. Dans les faits, en fait, peu d'entreprises peuvent dire que la création d'un RSE a diminué leur budget de formation. Deuxième exemple, c'est la question des emails. On se rend compte que de développer des RSE ne fait pas tellement diminuer le nombre d'emails échangés dans l'entreprise, ou en tout cas, le nombre de notifications, en fait, reste relativement important. Pour conclure, et ça me semble le point principal, c'est de se rendre compte finalement qu'il y a une sorte d'illusion qui peut exister par rapport à ces outils qui ont un réel intérêt, mais qu'on intéresse surtout pour les entreprises qui ont déjà créé une culture de la collaboration. L'illusion, en fait, elle est que l'outil, en tant que tel, pourrait développer lui-même une culture collaborative. On se rend compte que les entreprises qui ont les meilleurs résultats par rapport à leur RSE sont les entreprises qui avaient déjà une culture collaborative, et finalement l'outil est un moyen d'accélérer, en tout cas, ou d'améliorer la collaboration qui existait précédemment, et ce n'est pas l'outil en tant que tel qui crée la collaboration. On a pas mal d'entreprises qui sont parfois déçues parce qu'elles pensaient que l'outil allait créer la culture, alors qu'on se rend compte, là où ça marche mieux, c'est quand l'entreprise avait préparé l'ensemble de ses salariés pour développer un cadre de confiance, un cadre où l'évaluation est pas seulement individuelle mais aussi collective pour encourager les salariés à collaborer, etc. Donc en fait, on se rend compte que c'est vraiment la culture qui est première avant l'outil. Et ça, c'est un sujet qui est à prendre en compte et que parfois, peut-être, certaines entreprises sont allées un peu trop vite dans l'idée d'avoir un RSE sans penser quels étaient les préalables, un peu la préparation du terrain qui était nécessaire pour développer leur RSE. Voilà, je vais m'arrêter ici pour ne pas dépasser mon temps de parole. Et puis, je pense que les entreprises présentes pourront, elles aussi, mettre en avant les facteurs clés de succès qui font qu'un RSE va être plus ou moins efficace et plus ou moins utile dans l'entreprise.
Il y a quand même un point sur les réseaux sociaux. La popularité des réseaux sociaux, la façon dont on les a connus, c'est comme des instruments plutôt subversifs ou de contre-pouvoir qu'on pense sur l'usage des réseaux sociaux en politique, etc. Et ça, c'est pas sûr que les entreprises soient très preneuses de la subversion et de contre-pouvoir. De toute façon, si les réseaux sociaux se développent et créent une transversalité, on a vu l'exemple il y a quelques années, on a fait une soirée ici avec l'entreprise Lippi, on s'aperçoit que les structures sont transpercées de toutes parts, les cadres se mettent, pour certains, se rendent compte qu'ils ne servent plus à grand-chose. Donc si les réseaux se développent vraiment, c'est quand même des bouleversements à attendre. Et je voulais savoir s'il existe des entreprises où on autorise les pseudos. Parce que évidemment, une des grandes difficultés, c'est que si tous les gens travaillent sur des réseaux sociaux et se sentent tous épiés ou fliqués, c'est pas sûr qu'ils s'expriment aussi librement qu'ils le pourraient. En revanche, si les pseudos sont possibles, comme c'est le cas dans la vie sociale, on peut s'attendre à beaucoup plus de liberté. Mais je suppose que peu d'entreprises autorisent les pseudos, mais cela dit, je pense que le mouvement de communication est en marche.